bonjour. Situer un peu ce qu'on va faire. Donc je n'ai pas, ça fait pas longtemps hein, qu'on m'a demandé de parler des femmes dans la Bible. Donc je vous propose pas une vue d'ensemble, un survol, une chronologie des principales femmes, personnages, donc. Mais je propose, et donc c'est ce que donc Farid m'avait dit, ok pour ça, de prendre quelques exemples. Voilà. Et j'ai choisi des exemples qui m'ont paru encourageants et significatifs. Alors, on va commencer par, donc dans le deuxième livre des Rois, au chapitre 5. Ah oui, il y a un mot encore. Moi, je vais parler pas longtemps d'un personnage, et on va lire quelques textes. Et après, s'il y a des questions sur le personnage ou sur les enjeux que l'épisode soulève, c'est bien de poser les questions. Et après, moi, je prends un autre personnage, etc. Je pensais en faire 6, et on verra le temps, on verra, c'est, voilà.
Dans la mesure du possible, c'est bien si vous preniez le micro quand vous posez les questions.
Ah oui.
Ça permet d'être enregistré pour ceux qui écouteront l'étude a posteriori. Si, je vais le laisser là.
Alors, on lit l'épisode, deuxième livre des Rois, chapitre 5, verset 1 à... On ne va pas lire loin, jusqu'au verset 8. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, donc qui était, jouissait de la faveur de son seigneur, c'est-à-dire du roi, et d'une grande considération dans tout le peuple. Car c'était par lui que l'Éternel avait accordé le salut aux Syriens. Là, le salut au sens militaire. Hein. Mais cet homme important était lépreux. Or, les troupes des Syriens étaient sorties et avaient emmené du pays d'Israël une petite jeune fille comme captive. Elle était au service de la femme de Naaman. Elle dit à sa maîtresse, « Oh, si mon seigneur était... » Alors ici, mon seigneur, ça veut dire le mari de la maîtresse, le grand général, hein, principal de l'armée. « Si mon seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, celui-ci le débarrasserait de sa lèpre. » Naaman vint le rapporter à son seigneur en ces termes, donc au roi, « La jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et telle manière. » Alors le roi de Syrie dit, « Va, rends-toi à Samarie, j'enverrai une lettre au roi d'Israël. » Il partit en prenant avec lui donc 10 talents d'argent, 6000 pièces d'or, 10 vêtements de rechange. Bon, les 10 talents, ça fait 300 kilos quand même, je crois. Hein. Je ne suis pas sûr, mais beaucoup. Il apporta au roi d'Israël la lettre et il lui dit, « Maintenant, quand cette lettre te sera parvenue, » donc où il était dit, voilà, c'est ce qui était écrit, « Maintenant, quand cette lettre te sera parvenue, tu sauras que je t'envoie Naaman, mon serviteur, afin que tu le débarrasses de sa lèpre. » Il y a quand même des choses dans la Bible. Après avoir reçu la lettre, le roi d'Israël déchira ses vêtements et dit, « Suis-je Dieu pour faire mourir et pour faire vivre, qui s'adresse ainsi à moi, afin que je débarrasse un homme de sa lèpre ? Reconnaissez donc et voyez qu'il cherche une occasion de dispute avec moi. » verset 8 donc, lorsqu'Élisée, homme de Dieu, hein, le prophète de ce temps-là, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi, « Pourquoi as-tu déchiré tes vêtements ?» Ce qui veut dire grosse catastrophe. Hein. Il faut mener deuil, c'est terrible. « Pourquoi as-tu déchiré tes vêtements ? Qu'il vienne donc vers moi, et il reconnaîtra qu'il y a un prophète en Israël. » Voilà. Donc, le personnage féminin dont nous voulons parler, ce n'est pas la femme du grand général, c'est la petite jeune fille. Il n'est pas anodin qu'il n'y ait même pas son nom. Comme ça, si tu veux, tu peux mettre le tien. Non, ça c'est... Alors, je ne vais pas parler longtemps là. Cette petite jeune fille, elle est vraiment formidable. Parce qu'il faut réaliser ce qui se passe. Elle a été rapte, elle a été enlevée par une troupe de soi-disant militaires un peu brigands, un peu voilà. Elle a été embarquée. Et alors, petite jeune fille, qu'est-ce que ça veut dire 10 ans, 12, 8, 14, je ne sais pas. Non, dans l'Israël ancien, 14, ils n'auraient pas dit petite. Bon, passons. Et elle est là, elle est prisonnière. Et alors, ce qui est remarquable, c'est on lit à la fin du verset 2, elle était au service de la femme de Naaman, et littéralement, c'est elle était devant la femme du chef de Naaman. Et ce qui implique que la femme, c'était quelqu'un d'important, mais probablement, ça implique aussi qu'elle était elle-même bien considérée. Parce que ça n'aurait pas été difficile d'écrire « Elle était esclave de la femme de Naaman ». Donc, il est peu probable qu'elle ait été maltraitée, du moins, voilà. Cependant, elle a été arrachée à sa famille, elle est chez des étrangers qui parlent une autre langue, même si la langue n'est pas très éloignée, mais quand même, et... Au lieu de se dire, parce qu'elle a appris assez vite que le grand chef, il était lépreux, au lieu de se dire, bien fait pour lui, non, qu'est-ce qu'elle fait? Donc, si vous voulez, elle on peut l'admirer, cette petite, je pense qu'on peut admirer ses parents aussi. Parce que pour que ce qu'elle ait dans son cœur, c'est comment cet homme... c'est pas lui personnellement qui m'a arraché à ma famille, mais comment cet homme pourrait recevoir quelque chose de bien de la part de Dieu? Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je pense que vous commencez à l'aimer, cette petite, non? Et donc voilà, c'est extrêmement encourageant. Alors pourquoi j'ai lu jusqu'au bout? Jusqu'à l'épisode où le roi qui... Voilà. C'est qu'elle ne se doutait pas qu'en faisant ça, de ce qui se passerait. Alors, la suite de l'histoire, vous la connaissez. Finalement, Naaman va être guéri de sa lèpre. Et le texte précise que sa chair est redevenue comme celle d'un enfant. Et donc, elle s'en doutait, la petite, en disant si Dieu veut le faire avec Élisée, il fera ça. Mais... ça a failli faire une guerre. Si Élisée n'avait rien dit, le roi d'Israël avait interprété ça comme une grave provocation. Donc voilà, la bonté du cœur d'une petite anonyme, mais élevée dans la foi en l'Éternel, et qui prend en compte qu'il y a un homme de Dieu dans le pays. Bien sûr, il y a les sacrificateurs, tout ça, mais qu'il y a un prophète particulier avec qui Dieu avait déjà fait pas mal de choses, la bonté de cette petite et sa foi, ça a eu un impact impressionnant. Un impact impressionnant. D'ailleurs, la preuve, on en parle aujourd'hui. Voilà, pour cette petite dont je n'ai pas le nom. Voilà, moi, Là, je ne dirai pas plus. S'il y a des questions ou des remarques. Voilà, encouragement. Encouragement à la bonté.
Ce qui est incroyable aussi, c'est qu'elle ait été crue.
Ah oui. Oui, oui. Effectivement. Alors, et les Syriens étaient bien placés pour savoir que quand... quand Dieu disait quelque chose à Élisée, ça se passait. Mais quand même, c'est remarquable que sa maîtresse et puis que Naaman l'ait cru.
Avant l'heure, elle obéit aux paroles de Jésus de rendre le bien pour le mal.
Voilà. Super. Voilà, elle rend le bien pour le mal. Et on ne peut pas dire qu'elle... Alors bien sûr, elle a une position pas trop mauvaise, mais c'est quand même... Elle est enlevée, puis c'est une étrangère et c'est une servante, c'est tout. Comme quoi Dieu n'a pas besoin que ce soit forcément des grands personnages quand il veut faire quelque chose de formidable. Voilà. Une petite jeune fille. Ok, encourageant. Alors, oui, j'avais pensé à une autre enfant. On va le faire, une autre fille. Je vais le faire assez rapidement dans Matthieu 15. Alors là, c'est non seulement on n'a pas son nom, mais c'est même pas... Elle n'est que indirectement personnage de l'épisode. Mais vous allez comprendre. Matthieu 15, verset 21. Jésus partit de là et se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon, deux villes. Une femme cananéenne, ce qui veut dire originaire du pays depuis déjà avant qu'Israël n'y soit, donc païenne. Une femme cananéenne qui venait de ces contrées lui cria « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par un démon. » Littéralement, méchamment démonisée. Donc voilà, c'est ça. Il ne lui répondit pas un mot. Quand quelque chose est choquant dans la Bible, il faut se dire « Il y a un trésor pas loin. » Voilà, il y a du trésor quelque part derrière. Il ne lui répondit pas un mot. Ses disciples s'approchèrent et lui demandèrent, « Renvoie-la, car elle crie après nous. » Donc on a les deux personnages, hein, féminins, la fille et la maman. Alors, je dois avouer que j'ai pensé à la fille d'abord, mais on va voir. Il répondit, « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais elle vint, donc la maman, hein, elle vint se prosterner devant lui en disant, « Seigneur, viens à mon secours. » Et il répondit, « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » « Oui, Seigneur, dit-elle. Pourtant, les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Alors Jésus lui dit, « Ô femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu le veux. » Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Alors, la petite, ben on ne sait rien d'elle, sauf que, pour quelques raisons, elle était méchamment démonisée, ça veut dire qu'il y avait un esprit mauvais qui était en elle et qui l'a... La martyriser, ou je ne sais pas comment il faut dire. Mais on sait d'elle qu'elle a grandi dans le paganisme. Sa maman est païenne, avec toutes les idoles, tous les faux dieux, tout ça. Mais cette femme-là, donc, la maman, elle vient et elle appelle, elle prie en fait à Jésus directement, « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. » Et donc elle dit fils de David, ce qui, pour les Israélites, ce qu'elle n'est pas, pour les Israélites, signifie le Messie que Dieu a promis. C'est impressionnant. Donc, elle a entendu la réputation de Jésus aller loin. Elle a entendu et il y a eu de la foi là. Et là, on a lu la suite, une foi impressionnante. Hein. Alors, le fait que Jésus lui dit « j'ai été envoyé », qu'il n'ait pas répondu, il est probablement, donc si vous voulez, qu'il ait différé sa réponse, ça c'est probablement il le fait au bénéfice des Israélites qui le suivent, en disant « oui, la normale c'est que Dieu accomplisse ses promesses envers vous, et Dieu fait une différence, mais... » Il va répondre quand même. Et finalement, on sait qu'après la Pentecôte, l'Évangile est arrivé à toutes les aux non-juifs. Et déjà, avec Jésus, il y a eu un centenier par là, etc. Hein, voilà. Et elle continue. Quand les disciples disent, elle crie après nous. Donc ça veut dire qu'ils continuent à demander. C'est incroyable. Et puis, un certain temps, et puis finalement, elle vient, elle se prosterne devant lui et vient à mon secours. Donc Jésus, là, il parle, il lui fait... Je pense qu'elle est consciente de ne pas faire partie du peuple de Dieu. Hein, donc il répond avec cette logique-là. Et la réponse semble signifier non, c'est pas pour toi. Hein, c'est vrai, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants, de donner aux petits chiens. C'était à cette époque-là, le chien, il était semi-domestique, semi-sauvage. Il faisait sa vie un peu comme les chats aujourd'hui. Voilà. La réponse semble signifier non, mais qu'est-ce qu'elle lui dit ? Oui, et c'est impressionnant. Et elle ne rentre pas dans une argumentation polémique, dire mais oui, pourquoi, c'est pas juste, je ne sais pas quoi. Oui, mais même les miettes, autrement dit, une miette de ce que toi tu as de la part de votre Dieu, voilà. Et cette insistance, la demande, le fait d'avoir continué et d'avoir continué à crier sa demande, puis de s'être prosterné, de dire « viens à mon secours », puis de dire « oui, mais les miettes, une miette et je serai contente », tout ça, Jésus, il l'appelle de la foi. C'est super beau. Et la fille dont on ne sait pas l'âge, accessoirement, ce n'est pas forcément une petite fille, eh bien, elle est au bénéfice de cette foi. Et à combien c'est arrivé, donc homme ou femme, garçon ou fille, de recevoir quelque chose de Dieu, non pas par sa propre demande et avec sa propre foi, mais par la foi d'une autre, en l'occurrence ici la maman. Voilà. J'ai trouvé que c'était bien de commencer par des enfants. Remarques ou questions ? Oui, micro.
Oui, un petit éclairage sur ce que répond Jésus qui dit il ne serait pas juste de prendre le pain des enfants de la maison pour le jeter aux petits chiens. C'est pas forcément clair pour nous, les enfants, c'est-à-dire nous.
Non. Voilà. Ici.
Et les petits chiens.
Oui, fini. C'est ce que Jésus répond, c'est très difficile à entendre. Les enfants, c'est les Israélites. Et le petit chien, c'est les païens. Alors, Jésus n'est pas en train de dire son opinion sur l'humanité. Pour Israël, oui. Mais malheureusement, Israël a une partie des Israélites un peu trop orgueilleux et imbus de leurs privilèges appelait les païens des chiens. Et cette femme l'avait probablement entendu. Il n'est pas impossible qu'elle s'est entendue, elle ou d'autres païens comme elle, dénommée chien ou chienne par un juif orgueilleux et voilà, sans miséricorde. Il y a un vécu là. Mais résultat, elle est instantanément délivrée de cette emprise démoniaque. C'est quelque chose, hein.
Mais c'est quand même notoire on peut être asservi à une maladie ou à quelque chose. Et Jésus, on passe d'un asservissement à une soumission au roi des rois ou à celui qui délivre. Donc, et la réponse de Dieu devant un asservissement, qu'on pourrait croire, je suis obligé de me soumettre, il dit, Jésus remet les choses dans l'ordre. Pour l'instant, tu es asservi, mais c'est moi qui parle de soumission, qui te demande dans ton asservissement de me soumettre à toi pour être délivré. Donc il y a une différence entre le fait que je sois accablé, affermi, et dans le monde, je pourrais croire que finalement je suis soumis et c'est terminé. Et Dieu, non, Dieu est Dieu. Tu es asservi, mais c'est moi qui est soumis à la croix, la maladie, tout ce qui te
bien
contraint.
Sûr, bien sûr. Voilà.
C'est une grande différence. Il y avait aussi ce verset d'Ésaïe qui nous dit si tu es ferme dans ta confiance, tu seras affermi dans ta défense.
Ok. Une autre ? Alors, là on va prendre plus de temps. Premier livre de Samuel, chapitre 1. Voilà. Il y en a qui ont déjà tout. Premier livre de Samuel, chapitre 1. Alors celle-là, je l'aime beaucoup. Depuis, ça fait des décennies que personnellement, je considère le personnage de Anne comme un modèle de piété, de crainte de Dieu, d'humilité et d'assurance. Enfin, c'est impressionnant. Premier livre de Samuel. Il y avait un homme de Ramathaïm Tsophim, la ville qu'on appelait aussi Rama, tout simplement, des fois, de la montagne d'Éphraïm, nommé Elkana, fils de Bon, il y a les noms là des ancêtres. Verset 2, il avait deux femmes. Le nom de l'une était Anne et le nom de la deuxième, Pénina. Alors là, je vais peut-être faire quelques précisions au cours de lecture, parce que la lecture est plus longue. Deux femmes, c'est une tolérance dans la loi de Moïse. Jésus dira clairement qu'au commencement, il n'en était pas ainsi, que c'est pas ce que Dieu veut. Voilà. Autrement dit, tout ce qu'on lit dans la Bible n'est pas forcément un modèle. Quand la Bible elle-même montre qu'au départ, Dieu voulait autre chose. Voilà, c'est ça, hein. Parce qu'on voit dans l'évangile qu'il y avait des brigands. Deux ont été crucifiés à côté de Jésus. Alors, ça ne veut pas dire que le chrétien doit devenir brigand. Voilà. Donc ça ne veut pas dire non plus que le chrétien doit prendre deux femmes. Aujourd'hui. Alors il avait deux femmes. Et donc Anne, elle vit déjà rien qu'avec ce qu'on a lu, elle vit dans les conditions de toutes les femmes de son temps. Alors toutes n'étaient pas à plusieurs avec un seul mari, hein, mais dans des conditions qui ne sont pas tout à fait celles que Dieu veut. Mais elle vit en Israël, ils connaissent Dieu et on va vite voir qu'elle connaît Dieu. Pénina avait des enfants, mais Anne n'avait point d'enfants. Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo, époque, c'est là où il y avait le tabernacle, c'est là où on apportait les offrandes pour l'Éternel, montait de sa ville, donc vers Silo, pour se prosterner devant l'Éternel des armées et lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les deux fils d'Élie. Élie était le souverain sacrificateur, Ophni et Phinéas, sacrificateur de l'Éternel. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des parts à ses femmes, parce qu'il y avait un sacrifice où une partie était brûlée pour Dieu et une partie était mangée en famille. Et avec les amis, c'était le sacrifice de reconnaissance Et ça donnait lieu à des réjouissances et à un repas festif. Donc il donnait des parts à sa femme Pénina, ainsi qu'à tous ses filles et tous ses fils. Tous ses fils et toutes ses filles. Mais il donnait à Anne une double part, car il aimait Anne, que l'Éternel avait rendue stérile. Sa rivale, rien que le mot, quand le mot apparaît, jusque-là tu te dis peut-être que les deux ça va, s'entendent bien, vous voyez, comme deux sœurs. Sa rivale ne cessait pas de lui causer du chagrin, et attention, c'est pas écrit pour l'embêter, c'est écrit pour qu'elle se révolte parce que l'Éternel l'avait rendue stérile. Oh, la méchante femme! Là, la méchanceté, elle est spirituelle. Et c'est pas simplement moi j'ai des enfants, toi non, voilà, ce qui est méchant déjà, mais c'est pour la pousser à se révolter contre Dieu. Donc là. Et Anne, elle vit avec ça. Toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina lui causait du chagrin de la même manière. Alors, elle pleurait et ne mangeait pas. Elkana, son mari, lui dit, « Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas ? Pourquoi ton cœur est-il attristé ? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils ?» Alors ça, il y a deux manières de le lire. On peut le lire en surface, en v'lin qui ne se prend pas pour une queue de cerise. On peut aussi dire en v'lin qui n'a rien compris, mon pauvre. Au lieu de dire à celle-ci, pourquoi pleures-tu, il ferait mieux de dire à celle-là, fais attention. Enfin, hein, voilà, arrête ça, pas dans ma maison. On ne pousse pas quelqu'un à se révolter contre Dieu sous mon toit. Enfin, vous voyez, normalement. Bon. C'est OK, ça va comme lecture. Je veux dire, cette façon de comprendre le verset, je pense qu'elle est correcte. Mais ce n'est pas la seule, me semble-t-il. On peut aussi relever du verset tout simplement que Anne était vraiment aimée. Était vraiment aimée. Et que lui ne l'a. Le fait qu'elle n'ait pas d'enfant, pour lui, ça ne voulait pas dire que c'est une demi-femme. Parce que c'était un critère très important à cette époque. Depuis des millénaires et un peu partout, hein, mais spécialement à cette époque-là, et dans cette culture-là. Quand il dit « Est-ce que je ne vaux pas mieux que 10 fils pour toi ?» ça veut dire, même si jamais toi, tu n'as d'enfant avec moi, de moi avec moi, eh bien, pour moi, tu es ma femme, je t'aime, et donc c'est beau. Ça, vous voyez, il y a une lecture, le mari, il n'est pas à la hauteur, et une autre lecture, en partie, il est à la hauteur. C'est un peu le cas de nous tous. Hein. En partie, nous ne sommes pas à la hauteur, et en partie, nous le sommes. Voilà. Anne se leva, et après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près du montant de la porte du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel, donc Anne, hein, et pleura beaucoup. Elle fit un vœu et dit, « Éternel des armées, si ton regard s'arrête sur l'humiliation de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie pas ta servante, et si tu donnes un garçon à ta servante. » Ça me touche beaucoup, ça. « Je le donnerai à l'Éternel. » Pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera pas sur sa tête, la loi de Moïse prescrivait que quelqu'un qui est entièrement consacré à Dieu, il ne se coupait pas les cheveux. Donc, il faut réaliser ce qui se passe là. Elle souffre depuis des années. Et cette fois-ci, elle fait, je ne sais pas comment elle priait avant, mais là, elle vient vraiment une grande amertume. Elle fait un vœu, elle parle à l'Éternel, tu te souviens de moi. Et elle dit ce que son cœur désire. Ce qu'elle veut plus que tout au monde, c'est dirions-nous. Et si tu me le donnes, quand tu me l'auras donné, je le garderai pour moi, je serai une maman poule, je l'étoufferai, il ne pourra pas se développer, et finalement je vais en faire, je ne sais pas, vous voyez, je le donnerai à l'Éternel. Alors ça c'est admirable. Il n'y a pas beaucoup de personnages dans la Bible qui, avant même d'avoir reçu de Dieu ce qu'ils espéraient le plus recevoir, ont déjà dit à Dieu, je te le donnerai. C'est un peu pour ça que tout à l'heure j'ai dit que ce dont on a parlé dans Jean 17 ce matin, c'est le cadre de tout. Toutes les personnes qui ont voulu être avec Dieu et marcher avec lui vivent dans ce cadre-là. C'est pour lui. Et si c'est pour lui, je suis 10 fois plus comblé que si je le gardais pour moi. Dans son cœur, oui, elle a fait ce vœu. Alors il y a une chose qui est remarquable ici, c'est qu'il n'y a aucune indication, ni dans la suite du texte, qu'elle ait demandé auparavant la permission de son mari. Ce qui globalement était plutôt l'usage, ce qui souvent est une bonne chose à faire, quand c'est des choses à enjeu. Pour la couleur des chaussettes, non, hein. Mais... Pardon. Et ça en dit long quand même. Moi, ça m'encourage au sujet d'Elkana de faire la deuxième lecture sur le verset. Qu'elle savait qu'elle était considérée par son mari. Qu'elle n'était pas tenue pour une demi-personne par son mari. Et donc, devant Dieu, elle fait son vœu. Voilà. La suite va montrer qu'elle prend plusieurs initiatives. Voilà. Comme elle multipliait ses prières devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Donc ça a duré un moment. Anne parlait dans son cœur, seules ses lèvres remuaient, mais on n'entendait pas sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre. Il dit, où leur sacrifice de reconnaissance, ils ont été un peu trop reconnaissants. Il lui dit, jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. Et Anne répondit, et de nouveau, pas de révolte. T'as rien compris, papy. Elle dit, non, mon... Ceci dit, c'était le souverain sacrificateur. Donc, il n'y a pas beaucoup de risques qu'on lui réponde n'importe comment. Mais non, mon Seigneur, je suis une femme à l'esprit affligée. Et je n'ai bu ni vin, ni liqueur forte, mais j'ai penché mon âme. Je déversais, hein, je renversais mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme de rien. Ta servante, ton serviteur, c'est une façon de montrer un immense respect. Hein. Comme une femme de rien. Car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Élie reprit la parole et dit, va en paix, et que le Dieu d'Israël te donne ce que tu lui as demandé. Et lui, il ne sait pas ce qu'elle a demandé, hein, puisqu'elle n'a pas prononcé. Elle dit, que ta servante obtienne ta faveur. Et cette femme poursuivit sa route. Et là, de nouveau, très encourageant, elle mangea et son visage ne fut plus le même. Parce qu'il y a Dieu dans l'affaire. Là, il n'y a pas seulement Elkana et Pénina et Anne. Il y a le fait, voilà, elle a épanché son cœur, tout déversé. Et après, c'est à Dieu de... Elle est super quand même. Bon, c'est surtout Dieu qui est formidable. Mais voilà, on continue un peu quand même. Il y a moi qui remarque aux questions à ce stade. C'est très personnel là. À elle, c'est elle, c'est son, c'est juste elle et une famille.
Je me dis qu'elle ne lui dit pas, bon, tu m'en donnes un, le premier je te le consacre, et puis tu m'en donneras d'autres derrière.
Non.
Et elle le donnait sans savoir s'il y en aurait d'autres qui arrivent derrière.
Oui, exactement. C'est un vrai don.
Oui.
C'est un vrai, vrai don. C'est impressionnant. Autre chose ? Sur le...
Tu dis que c'est personnel, mais je trouve qu'on s'y retrouve. Enfin, on peut chacun s'y retrouver parce que tant qu'on garde en nous notre problème et qu'on tourne, on retourne, on se ronge, on se détruit, du moment qu'on l'amène au Seigneur, là, on est libéré déjà.
Oui,
avant
oui.
même d'avoir ouais. l'exaucement.
Oui, ça me, tu me, avec cette remarque, Anne-Marie, ça me pousse à dire que, enfin, tu m'inspires la remarque suivante, c'est que. Il n'y a aucune indication dans le texte comme quoi elle avait la haine envers Pénina, ce qui aurait pu se comprendre. Et aucune indication, surtout, qu'elle se soit révoltée contre l'Éternel. Ça fait une différence.
Oui, mais il est quand même dit qu'il y avait de l'amertume.
Oui.
Et elle l'a quand même apporté oui. à Dieu.
Pardon, elle a quand même.
Elle l'a quand même apporté à Dieu.
Oui.
Et des fois, on se dit, au Seigneur, on ne peut pas lui dire tout ce qu'il y a dans... voilà.
Merci beaucoup. Merci beaucoup, beaucoup de dire ça. Et épancher son âme, ça ne veut pas dire j'épanche ce dont je pense que Dieu va trouver joli. Et ce qu'il va trouver laid, ça je ne le dis pas. Non, épancher son âme, on dit tout à Dieu. Et si elle avait la haine envers Pénina, ben, à ce moment-là, il faut le dire. Mais si tu le dis à Dieu, ça veut déjà dire que tu ne la veux pas, cette haine, etc. Donc, c'est bon chemin. Épancher son âme devant Dieu, c'est toujours super. Bonne chose à faire.
Oui, pardon. Finalement, c'est l'histoire d'une âme qui a été, c'est l'histoire d'une femme qui a été aimée deux fois. La première fois par son mari, et la deuxième fois, elle est aimée de Dieu dans le sens où elle pose la question... Finalement, suis-je véritablement une femme aimée? Et c'est la question que je pose à Dieu. Est-ce que je suis vraiment aimée? Eh bien, Dieu, si je suis vraiment aimée, eh bien, je te demande un fils. Donc, et ce qui est beau, c'est que finalement, une fois qu'elle reçoit la promesse, elle le remet à Dieu. Mmh. Et finalement, le plus important, ce n'est même pas la promesse qu'elle reçoit. C'est de savoir que finalement, je t'ai posé une question. Est-ce que je suis sur cette terre véritablement aimée? Et ta réponse, et c'est oui, mon enfant, je t'aime inconditionnellement. Voilà, c'est ça qui est bon. Aimer deux fois. Et ce que j'aime, c'est que je ne sais pas si la deuxième chose est conditionnée à la première, parce que de la qualité de l'amour de son mari ressort au niveau de son cœur la façon dont elle expose le sujet à Dieu.
Il est clair que, que l'amour du mari l'aide à être, à se livrer aussi à Dieu, évidemment. C'est probablement le sens aussi de ce très beau verset qui, plusieurs fois, qui dit, où il est écrit X fois en fait, que Dieu nous connaît. Parce qu'il dit, si tu te souviens de sa servante, si ton regard s'arrête sur mon humiliation, etc., est-ce que tu me vois, est-ce que tu me connais? Oui. Et donc ça implique l'amour de Dieu, bien entendu. Voilà. Donc ils se levèrent de bon matin, donc son visage ne fut plus le même. Je pense que quelqu'un, un de ces quatre, il a dû lui dire, mais t'es deux fois plus belle qu'avant, hein. Il se levait un bon matin, après s'être verset 19, après s'être prosterné devant l'Éternel, donc sous-entendu encore une fois, et s'en retournèrent et revinrent dans leur maison à Rama. Elkana connut sa femme Anne, au sens conjugal, et l'Éternel se souvint d'elle. Alors, ce qui ne veut pas dire qu'il avait oublié, mais c'est une façon de dire que, voilà, parce que Dieu ne se souvient pas quand ça lui revient. Et Dieu il se souvient quand il veut se souvenir. Voilà. Dans le cours de l'année, Anne devint enceinte. Elle accoucha d'un fils qu'elle appela du nom de Shemuel, hein, Samuel, car, dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Voilà, c'est... Bon, je ne fais pas de vocabulaire, désolé. Juste pour ne pas prolonger trop. Le mari Elkana monta ensuite avec toute sa famille pour offrir à l'Éternel le sacrifice annuel et pour accomplir son vœu. Mais Anne ne monta pas, car elle dit à son mari, « Lorsque le garçon sera sevré, je le mènerai afin qu'il soit présenté devant l'Éternel et qu'il reste là pour toujours. » Et Elkana, son mari, lui dit, « Fais ce qui te semblera bon, reste ici jusqu'à ce que tu l'aies sevré, que l'Éternel accomplisse seulement sa parole. » Et la femme resta, elle allaita son fils jusqu'à ce qu'elle l'eût sevré, hein, ce qui veut dire qu'il n'y a plus besoin du lait maternel, ou du moins qu'il peut s'en passer. Donc c'est son initiative. Hein. Mais oui, comme il y a l'amour et qu'ils sont en confiance, Elkana et elle peut prendre des initiatives. Alors, je me suis souvent dit, combien de maris auraient dit à Anne, « Et tu crois pas un peu que c'est aussi mon fils ?» Et moi, alors d'accord, admettons, toi, et tu acceptes de plus le voir, si, une fois par an après. Et moi ? Bon, mais non. À moins que quand on a lu pour accomplir son vœu, il n'ait après coup adhéré au vœu de son épouse, ou c'était un autre vœu, parce que il pouvait faire des vœux par moment, et quand le vœu était accompli, ils apportaient une offrande à Dieu. Donc ça pouvait être un autre. Mais en tout cas, c'est super beau, hein. Voilà. Et après, on peut finir, si vous voulez, quand elle... Ah non, je vais jeter un coup d'œil à la pendule. Oula. Non, la suite, je vous encourage à le lire vous-même. Donc elle l'amène, elle dit à Élie, c'était moi. Tu te rappelles? Et il dit, voilà, je priais pour lui. Et bien le voilà. Et donc elle reste là. Hein. Et elle précise, oui. Oui, deux ou trois, voilà, par là, ouais. Oui. Ouais.
On pourrait dire que presque elle a voulu cet enfant plus pour le donner à Dieu, pour Dieu, que pour elle-même. Parce que sitôt le donner, elle en profitait.
C'est ça. Elle n'en profite pas. Elle n'a plus profité.
Comme si dans son cœur, elle aimait assez Dieu pour vouloir un enfant, pour le lui donner. Quoi. Enfin, je trouve que c'est beau.
C'est impressionnant. Hein. C'est impressionnant. Et alors, quand on voit ce qu'est devenu Samuel... alors, pour parler de personnages consacrés à Dieu, alors c'est le Saint-Esprit lui-même qui a consacré Samuel à Dieu, mais c'est sa maman avant qu'il soit conçu. C'est impressionnant. Les répercussions, et tout Israël va être délivré plus d'une fois grâce à Samuel, et spécialement grâce aux prières de Samuel. Ouais. Hein, Samuel qui dit « Loin de moi de pécher contre l'Éternel en cessant de prier pour vous. » Plus tard, hein. Voilà. Et alors maintenant, au sujet de Anne, je peux pas m'arrêter sans évoquer sa prière, et qu'on a donc le cantique de Anne, une prière, pas celle du début, hein. Après, une fois qu'elle repart sans son fils, on ne sait pas combien de temps après, mais voilà. Et alors là, Anne pria et dit, « Mon cœur exulte en l'Éternel, ma force s'est élevée par l'Éternel. » etc. Et ça, c'est presque mot à mot les premiers mots de la prière de Marie quand l'ange lui a dit qu'elle va être enceinte et que celui qui naîtrait, par celui qui naîtra, Israël serait sauvé de ses péchés. Donc, notre Anne, qui a beaucoup souffert, mais qui s'est épanchée devant Dieu, qui ne s'est pas rebellée, pas révoltée, eh bien finalement, elle prophétise d'une manière unique. absolument unique. C'est incroyable quand même, parce que, attention, là on est, au moins 1100, donc 1100 années avant la naissance de Jésus. Donc plus d'un millénaire avant. Verset 3, ne multipliez. Elle se fait même, c'est même une louange à Dieu, mais qui est un avertissement pour ceux qui l'entendront. Ne multipliez pas vos paroles sans cesse plus arrogantes. Un petit coup d'œil vers Pénina. Je ne pense pas qu'elle l'ait fait comme ça, elle, mais le lecteur est obligé d'y penser. Que l'audace ne sorte pas de votre bouche, etc. Car l'Éternel est un Dieu qui connaît tout. Voilà, ensuite, verset 6, l'Éternel fait mourir et il fait vivre. Il fait descendre ses jours des morts et il en fait remonter. L'Éternel appauvrit et il enrichit. Il abaisse et il élève, etc. Du fumier, il relève le pauvre, ça, Marie le dira aussi. Et regardez les derniers mots, c'est-à-dire le verset 10. Ceux qui contestent avec l'Éternel seront terrifiés contre eux dans les cieux, il tonnera. Et maintenant, l'Éternel jugera les extrémités de la terre, il donnera la puissance à son roi et il relèvera la force de son Messie, de son loin. Donc, si on veut parler d'un roi humain physique en Israël, ça sera longtemps après, assez longtemps après. Et donc Saül, mais surtout David. Mais si on veut le roi de l'Éternel, le Messie de l'Éternel, elle est en train de prophétiser qu'il y a un Messie qui viendra et à qui Dieu donnera la puissance et le jugement sur toute la terre. Si Pénina avait su que ça finirait comme ça, hein, peut-être qu'elle aurait rien dit. Hein. Voilà, donc oublions Pénina, mais prenons exemple sur cette femme. Alors à vrai dire, un homme aussi peut prendre exemple sur la femme, et non seulement peut, mais doit en l'occurrence, un exemple aussi admirable, et il faut, bon, en tout cas moi je le prends comme modèle de piété, de à la fois soumission à Dieu et foi, c'est super beau. La piété, en fait dans la Bible il n'y a pas une piété de femme et une piété d'homme. Piété, ça veut dire bien honorer Dieu, de toutes les manières, en priant, en l'aimant, en lui obéissant, en aimant son frère, sa sœur. Donc, tout ce qui est fait pour voilà. Donc, il n'y a pas une piété de femme et une piété d'homme par nature, c'est la même. Mais, il y a une piété vécue dans une âme de femme, avec une histoire de femme, des souvenirs de petite fille, etc. Et une piété vécue dans une âme d'homme, avec des souvenirs de garçon. Voilà. Donc, voilà, Anne. Et alors pour conclure, et vous ne serez pas étonné, vous savez ce que signifie le nom de Anne? Oui, c'est la grâce. Grâce, hen, en hébreu, la racine H qu'on transcrit dans nos lettres HN, c'est la grâce. Sinon, je la répète. Je peux la répéter.
Oui. Dans l'Ancien Testament, en fait, ils n'étaient pas remplis du Saint-Esprit. Mais là, quand même, elle prophétise. Oui. Et donc, qu'est-ce qui se passe, en fait?
Alors, c'est que le fait que le Saint-Esprit habite, a demeure, c'est-à-dire reste et ne part pas dans le croyant, ça, c'est propre à la Nouvelle Alliance. C'est en Christ. Ceux qui sont en Christ, le Saint-Esprit vient et il ne part pas. Et dans l'alliance précédente, le Saint-Esprit venait et repartait. Voilà, donc il y avait des visitations. Alors, c'est pas, des fois, il ne repartait pas. Il est écrit au sujet de Josué que l'Esprit de Dieu habite en lui. Mais c'est extrêmement rare, les personnages de l'Ancien Testament où c'est écrit qu'il habite ou demeure en lui. En général, c'est il vient, il fait quelque chose, il le fait parler ou il lui fait faire l'acte qu'il veut. Et puis, voilà. Il repart. Ce qui est très instructif sur mais ce que je disais ce matin, s'il y a Dieu et moi, mais pas en Christ, je n'ai pas du tout la même bénédiction que si c'est en Christ. Si c'est en Christ, comme c'est, parce que le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Christ, l'Esprit de Dieu et de Jésus. Et c'est le, ils n'ont qu'un esprit tous les deux. Et si c'est en Christ, eh bien, il peut rester. Si c'est que Dieu et moi, il me visitera, mais il repartira. Alors, est-ce que... question sur Anne, sur sa foi, sur sa douleur, sur sa persévérance, sur sa, le fait qu'elle prophétise. Elle, vous serez d'accord qu'elle est formidable, cette femme. Oh. Alors, est-ce que vous voulez bien une autre Anne? Je me suis dit que ça serait bien deux Anne. Alors, formidable aussi. Là, c'est beaucoup plus court. Je crois que c'est deux ou trois versets dans Luc. Parce qu'elle va aussi nous encourager d'une autre... voilà, c'est différent. Ce n'est pas du tout le même vécu. Vraiment pas le même vécu. Pas du, donc, là, c'est, Jésus est déjà né. Donc, on est à peu près 1100 ans après, hein, plus d'un millénaire après, la première. Est-ce que les parents de cette deuxième, de cette Anne-là, celle de Luc 2, l'ont nommée Anne par référence à la maman de Samuel? C'est au moins possible, et on peut sans doute penser probable. Alors, Luc 2, verset 36, donc l'épisode précédent, c'est avec Siméon. Hein, les parents de Jésus, Joseph et Marie, l'ont amené au temple pour le faire circoncire, pour apporter les offrandes, comme la loi le disait. Et donc, Siméon le prend dans les bras, etc. Et donc là, il y a trois versets qui s'en rajoutent, 36, 37, 38, dans Luc 2, 36, 37, 38. Il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Phanuel de la tribu d'Azer. Alors là, c'est dit d'entrée. Si vous voulez, l'histoire de Anne, il faut arriver à la fin pour voir qu'elle prophétise. Et elle n'est pas prophétesse. Elle prophétise quand, à ce moment-là. Mais là, d'entrée, c'est dit. Il y avait une prophétesse. C'est-à-dire, on n'a même pas son nom. Déjà, il est précisé qu'elle est prophétesse. Prophète, ça veut dire qu'il parle de la part de Dieu. Hein, phémie, c'est parler en grec. Donc, pro, c'est pour, avec ou de la part. Voilà, prophétesse, elle parle de la part de Dieu. Anne, voilà. Elle était d'un âge fort avancé. Après avoir vécu 7 ans avec son mari, depuis sa virginité, elle resta veuve. Et, âgée de 84 ans, elle ne quittait pas le temple et servait Dieu nuit et jour par des jeûnes et des prières. Voilà. Tu veux savoir qu'est-ce que c'est une prophétesse? Ah, c'est pas forcément veuve, hein. mais c'est Dieu. Elle parle de la part de Dieu quand Dieu le dit, mais sinon, c'est Dieu. Dieu, Dieu. Le jour, Dieu. La nuit, Dieu. Alors, on ne sait pas. Elle a vécu 7 ans avec son mari. On ne sait pas à quel âge elle s'est mariée. À l'époque, c'était genre assez jeune, souvent avant 20 ans. Et donc, elle reste. Plus que 84. Oui, voilà, voilà. Oui, à peu près une soixantaine d'années, mettons. Est-ce que c'est depuis le début qu'elle est là jour et nuit? Je ne sais pas, mais quand même, tu lis ça, tu te dis, il n'y en a pas beaucoup des comme ça. Bon. Alors, je lis le 38. Elle survint, elle aussi. C'est ce qui est dit de Siméon aussi, qu'il est venu poussé par l'Esprit. Elle survint, elle aussi, à cette même heure. Elle louait Dieu et parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la rédemption de Jérusalem. Rédemption, rachat, salut, délivrance. Alors pourquoi alors celle-là, je dois avouer que je l'aime beaucoup aussi. En fait, je suis particulièrement sensible au personnage qui, du milieu d'une grande douleur et parfois d'une très longue douleur, vivent pour Dieu. Alors, Dieu donne du prix aussi à ceux qui vivent pour lui avec moins de douleur. Il n'y a pas de... Vous voyez, je ne fais pas un rapport de... Mais c'est particulièrement touchant. Parce que veuve après 7 ans de mariage, je ne sais pas, les jeunes mamans, là... Voilà. Alors, on a dit, elle est, il n'y en a pas beaucoup des comme ça. Et alors, une femme exceptionnelle. Et qu'est-ce qu'elle fait, la femme exceptionnelle? Elle prie. Elle jeûne, elle prie. Elle loue Dieu. Et elle parle de Jésus. C'est pas, elle fait tourner la planète dans l'autre sens. Vous comprenez? C'est pas partout où elle passe, son ombre guérit tout le monde. Dieu l'a fait une fois avec Pierre, ça. Enfin, voyez, Dieu fait des choses absolument incroyables des fois. Mais une grosse partie de ce que Dieu fait, ça semble tout à fait anodin, mais c'est quand même exceptionnel, parce que c'est fait pour lui, et avec son, par son esprit, avec son esprit. Il faut comprendre un peu qu'est-ce que ça pouvait signifier, parler de Jésus à ce moment-là. Il venait de naître. Donc là, il n'y avait pas les épisodes à raconter, la multiplication des pains, c'est, vous voyez, c'est pas « il est mort pour tes péchés, crois en lui », il n'y avait pas tout ça. Juste lui, voilà. Le Messie promis est venu, Dieu a donné son Messie, et elle en parle, et alors c'est super beau. C'est pas dit qu'elle en parle à tout le monde et n'importe qui. Elle en parle à ceux qui attendaient la rédemption, une intervention de Dieu pour son peuple. Voilà. Et j'ai entendu plus d'une fois des évangélistes, des gens dont c'est vraiment le don, dire que leur prière, quand ils vont, quand ils sortent, c'est que Dieu les conduise vers ceux qui cherchent, ceux qui maintenant. Voilà. Ce n'est pas forcément tous tes copains du boulot, ou tous les amis du lycée, ou, c'est là où Dieu te fait sentir que le cœur cherche. Et elle parle de Jésus. Et c'est la première chose que Pierre prêche chez Corneille. Hein. Il dit que Dieu a donné Jésus. Après, il dit qu'il a fait le bien, qu'il a été crucifié, qu'il est ressuscité, qu'il sera un juge de tous. Il dit tout après. Mais en premier, il dit que c'est, et voilà, c'est Dieu qui l'a donné. Il est Seigneur. Voilà. Donc, on n'est pas tous des personnages exceptionnels. Moi, le premier, je ne suis pas exceptionnel. Mais je peux jeûner, je peux prier, je peux louer Dieu et je peux parler de Jésus en étant conduit vers ceux qui cherchent. Voilà, quelques remarques sur cette Anne-ci, Anne 2. S'il y a.
C'est amusant parce que la souffrance fait toujours naître quelque chose avec Dieu. La souffrance de longue durée, et là elle fait apparaître une naissance, et elle qui est maintenant âgée, qui est vieille et qui s'est consacrée à Dieu, elle a la joie de voir s'accomplir une naissance en elle, pratiquement, parce qu'elle parle de cet enfant comme si presque c'était le sien, si je pouvais dire.
Alors j'entends, alors, de manière plus juste, ce n'est pas la souffrance qui produit la chose hein, au sens biblique. Elle est le terrain ou dans lequel Dieu fait, mais il fait autant là où il n'y a pas de souffrance. Voilà. C'est-à-dire que d'après la Bible, si on regarde toute la Bible, il n'y a pas de vertu dans la souffrance elle-même. Ce n'est pas la souffrance qui a une vertu, c'est Dieu qui a une vertu. Vertu, ça veut dire, là je ne parle pas des vertus morales, hein. C'est inclus si vous voulez, mais ça veut dire la capacité de faire arriver les choses hein, par la vertu du Saint-Esprit. Donc la vertu, la capacité, la puissance, l'autorité, la légitimité de faire apparaître et de faire arriver quelque chose, c'est Dieu qui l'a. Donc en elle-même, la souffrance ne l'a pas. La Bible dit aussi que la souffrance pousse à la révolte contre Dieu. Et Job le dit. À cause de ta souffrance, tu t'es mis contre Dieu. Et il dit ça à quelqu'un d'autre. Donc en soi, voilà, c'est pas personnel, hein, mais il faut le préciser ça. Parce qu'il existe, donc, entre autres dans le catholicisme, mais pas que, il existe une doctrine doloriste, c'est-à-dire où on croit que la vertu est dans la douleur. Et donc, plus tu souffres, plus il va en sortir du bon. Non. Oui. Alors, bon, les douleurs de Christ, les douleurs de Christ sont uniques, non pas en ce qu'elles sont des douleurs, et deux autres ont été crucifiés juste à côté, et des centaines, et des, je ne sais pas combien, avant et après, mais en ce que ce sont les siennes. La vertu n'est pas dans la douleur sur la croix, la vertu est dans le fait que c'est celle de Christ, que c'est lui qui se laisse crucifier, ou qui se donne volontairement. Voilà, super. Alors, s'il y a des questions qui ne sortent pas directement des exemples au sujet de pardon, voilà, la femme dans la foi, la femme dans l'Église, l'homme, la femme, je ne sais pas moi, voilà, l'importance, la valeur, mais je n'ai pas préparé une conférence très sur le sujet, mais étant tout le temps plongé dans la Bible, il y a des choses à voir quand même. Alors, quelqu'un m'a posé une question avant le repas là. Je ne sais plus qui c'est, enfin voilà, mais je ne la vois pas.
Sur la femme prophète et la femme pasteur ?
Non, ou alors j'ai oublié.
Ça, c'était la mienne en fait, la place justement de la femme en fonction de ce qui se voit beaucoup maintenant dans beaucoup d'églises sur la femme du pasteur. Qu'est-ce que vous en pensez?
Moi, je vais être obligé d'être sobre là. Hein. Pas à cause du sujet, à cause de. Bon, parce que c'est vaste. J'ai dit tout à l'heure qu'il n'y a pas une piété masculine et une piété féminine. Si vous voulez, spirituellement, il n'y a pas. D'ailleurs, quand Paul écrit « En Christ, il n'y a plus ni homme ni femme », donc là, ça revient, c'est la même piété, le même cœur. L'être intérieur, c'est le même. L'être né d'en haut, il est né d'en haut, voilà. Des femmes qui prophétisent, on en a dans l'Ancien Testament, on en a dans le Nouveau Testament. Philippe avait 4 filles. Le texte précise vierge dans le sens, ce qui voulait dire là non marié, et qui voulait aussi dire vierge au sens propre, bien sûr, mais non marié, et les 4, et qui prophétisait. Donc, dans un sens, donc la Bible montre qu'il n'y a pas de différence. Et elle montre aussi qu'il y en a une. Parce que le même Paul qui écrit il n'y a plus ni homme ni femme, Il donne des indications. Il dit que le mari aime sa femme et que la femme respecte son mari. Il aurait pu le dire en inversé, et ça vaut aussi, mais il le dit dans ce sens-là. Après, pour la question pasteur, comment faire simple? Dans le Nouveau Testament, il n'y a jamais un pasteur. Ah oui, la question c'est... Mais moi j'ai le micro. le mien, il bouge pas, le mien. Oui, c'est femme qui prophétise, femme qui est pasteur, ou femme de pasteur, du coup, qui prend plus de place. Voilà, qu'est-ce qu'on peut dire à ce sujet. Dans le Nouveau Testament... Il n'existe pas un pasteur pour une église. C'est un collectif. Et les pasteurs au pluriel, les bergers d'une église, ce sont donc les anciens. parce que c'est à eux que le texte dit de faire paître, ce qui veut dire à la fois conduire, nourrir et veiller, protéger, etc. Voilà, donc c'est un collectif. Du coup, la question, comme c'est d'usage à peu près depuis quelques siècles, qu'il y a un pasteur ou une dans l'église, ben, la question elle est impropre si on veut se situer seulement dans le Nouveau Testament. Voilà. Après, il y a une... La principale différence que les textes font entre hommes et femmes dans le, au sujet de la, du ministère, de l'autorité, donc c'est pas la foi, c'est pas l'autorité spirituelle, c'est pas le fait de servir Dieu, c'est pas le fait d'être un modèle, un exemple, tout ça c'est pareil. C'est l'autorité première au niveau humain, hein, parce que la première c'est Dieu et Christ. Toutes les autorités autres que Dieu et Christ, c'est des autorités déléguées, donc qui simplement sont au service de l'autorité. Il n'y en a qu'une, si vous voulez. Bon. Donc, les anciens ne sont que des autorités déléguées. Mais par rapport aux autres humains, ils sont en première ligne, si vous voulez. C'est l'autorité principale. Et la seule chose dont le Nouveau Testament dit que ce n'est pas le rôle d'une femme, c'est d'être autorité première, soit pour conduire, soit comme référent de la doctrine. Hein, quand Paul dit « je ne permets pas à la femme d'enseigner », ça ne veut pas dire qu'elle ne peut pas prêcher, exhorter, etc. Mais enseigner, c'est le verbe qui en français donne « docteur ». L'enseignant, le référent de la doctrine. Alors, il y aurait mis l'argument, enfin, non, il n'y aurait pas. Au long des siècles, on a tenté des arguments culturels, psychologiques ou autres pour expliquer ou pour s'opposer à cette limite. Et en fait, l'argument, il est pas spirituel, il n'est pas psychologique, il n'est pas culturel, etc. Il est exclusivement spirituel, et je vais vous faire la version courte. Quand Dieu crée l'homme et la femme, il le fait d'une manière extrêmement étrange. Extrêmement étrange. Il crée Adam, et dans un second temps, et Adam, il prend le temps de faire venir d'autres créatures, tout ça, voilà, devant lui. Et dans un second temps, il crée Ève à partir de Adam. Voilà. Et Paul relèvera dans 1 Corinthiens 10 que l'homme est créé en premier, la femme en second. De la part de Dieu, pour la vie sur terre, le fait qu'il y ait un premier créé et une deuxième créée, de la part de Dieu, ne signifie pas que le premier dominera sur la deuxième. Parce que quand Dieu dit « croissez, multipliez, dominez », il dit bien sur quoi, sur qui ? Sur les poissons, sur les oiseaux, sur les animaux, le jardin, voilà. Donc, les autres créatures non humaines, qui sont des âmes vivantes, littéralement quand même, et le reste de la création. Et il n'y a pas un mot, de domination d'Adam sur Ève, ni plus tard d'un humain sur un humain. Comme volonté fondamentale, initiale et permanente de Dieu. Voilà. Alors vous allez me dire, mais où est le sens ? Alors, quand Dieu dit à Ève après la rupture, tes désirs se porteront vers ton mari, mais lui dominera sur toi, il ne donne pas un commandement. Il prédit une catastrophe. Il prédit les effets du péché. Vous voyez ? Il ne dit pas à Adam, domine, elle s'est fait bananer par le diable, et ben pour pas que ça s'aggrave, domine sur elle. Alors certains se sont plus à le comprendre ainsi, mais ce n'est pas ce qui est écrit. Donc, Donc voilà, vous voyez, il dominera sur toi, c'est une anomalie. C'est une anomalie. Et on est bien placé pour savoir que depuis des millénaires, dans toutes les cultures plus ou moins, il y a une profonde injustice dans ce sens-là, l'homme domine sur la femme. Malheureusement, en Église aussi. Dans le religieux, beaucoup aussi. Alors, pourquoi ? Alors, s'il en était ainsi, pourquoi est-ce qu'une certaine différence est maintenue ? Pourquoi il dit que le mari aime la femme et que la femme respecte son mari ? Pourquoi il dit qu'elle ne soit pas, je le reformule, référente de la doctrine ? Pourquoi c'est pas, on fait plus aucune, il n'y a pas de limite ? Eh bien, tout simplement, pour la raison d'être, si vous voulez, la réponse à ça, c'est la raison d'être pourquoi Dieu a créé l'homme et la femme. Si on comprend pourquoi Dieu a créé l'homme et la femme, on comprend la raison de cette limite passagère, et surtout on comprend l'aboutissement. Pourquoi Dieu a créé l'homme et la femme ? Qu'est-ce que Paul écrit dans Éphésiens 5 ? Quand il parle de l'homme, la femme, il parle de soumission mutuelle, dans le contexte c'est mutuel, mais il précise que la femme soit soumise au mari, etc. Pardon ? Ah oui, ah mais tu es là ? Je ne te voyais plus. Peut-être le... Paul dit, oui, d'accord, je parle de mari, du mari et de l'épouse, mais tout ce que je vous dis là, au fond, c'est, je dis au sujet de Christ et l'Église. Et c'est le dernier personnage féminin dont j'avais prévu de parler, qui n'est pas un personnage, qui est l'épouse. Et oui, je ne pouvais pas la louper, celle-là. Parce que l'homme et la femme, l'humain, a été créé, on l'a lu ce matin dans l'évangile de Jean, pour être donné au Fils. Entendons ça. Pourquoi Dieu a créé les humains ? Pour que ceux qu'il voudrait parmi eux, il les donne à son Fils. Pourquoi tu as été créé ? Pour être donné à Jésus. C'est la raison d'être de la création de l'homme et de la femme. Et donc, une fois que Dieu accomplit ça, j'y vais. Apocalypse, s'il y a du temps, je verrai un autre. Non. Oui. Oui, j'ai évoqué, enfin, j'ai vaguement cité Éphésiens. Apocalypse 21. Verset 9. Puis un des sept anges qui tenait les sept coupes remplies des sept dernières plaies, les coupes de la colère de Dieu, donc l'un d'eux qui tenait les sept coupes, vint et me parla en disant, viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. Donc, langage figuré. Alors, la preuve que c'est un langage figuré, c'est la suite. Il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne. Et il me montra une ravissante femme. Non. Il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu. Elle avait la gloire de Dieu. Son éclat était semblable à celle d'une pierre très précieuse, une pierre de jaspe transparente comme de cristal, etc., etc. Et donc, c'est le dernier personnage avec des guillemets là, féminin, qu'on voit dans la Bible. Et c'est qui ? Enfin, elle est qui ? Elle est l'ensemble de tous ceux que Jésus aura sauvés, que Dieu lui aura donnés, et qui seront, cet ensemble est à lui, dans un amour qu'on peut pas concevoir, comme on est aujourd'hui, on ne peut pas concevoir l'amour qu'il y a là. Et l'époux et l'épouse, donc Christ et l'Église au sens collectif, entendez bien ce qui va suivre. c'est la clé de compréhension de tout, du tout, sur le sujet, là. Homme, femme, limite, pas limite. L'époux est Dieu. Jésus est de nature divine comme le Père. Il est Dieu. L'époux est Dieu. L'épouse est créature. Les rachetés ne deviennent pas Dieu. Si vous voulez, l'union époux-épouse n'est pas une union égale. Accessoirement, l'égalité n'est pas une vertu biblique. La vertu biblique, c'est l'unité. Jésus, on l'a lu ce matin, il prie que ah non, on ne l'a pas lu cette partie, mais que, comme toi et moi, Père, nous sommes un. Et il ne dit pas comme toi et moi, Père, nous sommes égaux. Et il dit le Père est plus grand que moi, etc. Donc il y a, le Fils n'est pas le Père, le Père n'est pas. Vous voyez, donc c'est pas l'égalité au niveau humain, c'est mieux que rien, disons. Mais pour des chrétiens, c'est l'unité c'est l'unité qui a du prix. Voilà. Et du coup, la petite différence qui est maintenue quand on dit, eh bien, que c'est pas une femme qui est référente de la doctrine. Après, une sœur peut être dans un collectif de théologiens. Vous voyez ? C'est pas une femme qui est... dans les textes, il n'y a pas de femme ancienne. Dans le Nouveau Testament, c'est bien précisé que c'est des hommes. Ce n'est pas le même mot en grec. Hein. Voilà, il y a anthropos, c'est humain, et les hommes masculins, c'est andros. C'est ton mari. Voilà. Donc, cette minime différence, elle sert à quoi ? Et donc ma conviction, pour répondre qu'est-ce que j'en pense, ma conviction c'est qu'il faut maintenir cette différence parce qu'elle est maintenue dans les textes et c'est uniquement pour honorer le final. Christ est l'épouse et pour dire il est Dieu, nous sommes créatures. Alors bien sûr que l'épouse c'est le collectif des âmes d'hommes et de femmes. Si vous voulez, il n'y a plus de dimension après masculin-féminin. C'est une autre échelle. Ce n'est pas par hasard que j'ai dit qu'on ne se marie pas après. Ils seront comme les anges de Dieu. Voilà. Remarque, question.
Oui, je n'ai pas bien compris le verset, en fait, là, le verset 9. Voici l'un des sept anges et tout, j'ai pas trop compris ce que ça voulait dire.
Alors, personne l'a compris parce que, enfin, quasiment, parce que on prend, c'est vers la fin, c'est l'avant-dernier chapitre de l'Apocalypse, on n'a pas vu tout ce qui. Voilà. Et en fait, il y avait sept anges qui, un par un, ont sonné de la trompette et c'était des châtiments de Dieu, donc c'est au futur, ça. Jean le voit comme ça se déroule, mais ça c'est à la fin, peu avant que Jésus ne revienne pour de bon. Donc, c'est précisé que c'est des anges puissants, grands. Et donc l'un d'eux, eh bien, il ne se contente pas de sonner de la trompette comme les autres à son tour pour déclencher un jugement. Il ne se contente pas de remplir ce rôle-là. Mais il vient vers l'apôtre Jean et dit, viens, je vais te faire voir. Et en fait, il lui fait voir l'Église dans sa dimension céleste. L'Église, donc, ce n'est pas l'Église baptiste ou pentecôtiste ou réformée. Hein, c'est, voilà. Est-ce que ça éclaire un peu ?
Est-ce que l'époux sera enlevé avant la colère de Dieu ? Oui. Enfin, je me dis oui, j'espère.
Aïe, aïe, aïe. Alors, joli, ta dernière phrase. Ouais. Alors.
Qu'on était plus soumis à la colère de Dieu, oui. Mais est-ce que l'époux sera enlevé ?
Alors, d'abord sur la colère. Il n'y a aucun texte qui applique la colère de Dieu à ceux qui sont en Christ. Au contraire, il est écrit, il nous délivre de la colère à venir, et il ne vous a pas destiné à la colère, mais à l'acquisition du salut. Hein, aux Thessaloniciens, par exemple. Donc, après, le reste, après, c'est... il existe plusieurs manières de concevoir comment ça se passe à la fin, quoi avant, quoi après, tout ça. La plus répandue, la plus connue, avec l'idée d'un premier retour secret, puis un enlèvement secret, le monde y voit juste le vide hein, qu'on laisse, mais il continue normal, il ne voit pas Jésus ni venir ni repartir. Donc ça c'est un scénario qui n'existe, alors je suis désolé, je ne veux pas créer de problème à quelqu'un, vous arrangerez avec les anciens de l'Assemblée, mais moi ce que je peux faire, là je ne donne pas une opinion. Je ne donne pas un avis, je ne donne pas une opinion. C'est une compréhension qui n'a pas existé dans le christianisme avant le 19e siècle. Voilà, l'idée d'un enlèvement, d'un retour invisible, un premier puis après, n'a pas existé jusqu'au 19e siècle. C'est parti d'une prétendue prophétie. Et puis après, certains ont élaboré là-dessus en prenant des morceaux de texte par-ci, par-là. Et donc, effectivement, certains enseignent que avant la grande tribulation, la dernière, l'Église sera enlevée. Bon, ça, c'est dit nulle part. Il est écrit nulle part. Il est vraiment nulle part écrit que Jésus revient en deux fois. C'est toujours au singulier, pour son avènement, pour le jour de Christ. Alors viendra la fin. Tous les mots qui en parlent sont synonymes entre eux et désignent la même chose. La fin, le jour, son avènement, son apparition, etc. etc. Il y en a sept mots qui désignent tous la même chose. C'est toujours au singulier. Donc, si vous voulez, si on fait une exégèse rigoureuse des textes, c'est un scénario qui ne se valide pas. Voilà. Après, c'est pas, j'allais dire, si quelqu'un le croit et qui est fidèle à la vérité sur tout le reste, ben, alléluia, il va servir à Dieu, il va avoir un bon témoignage, des personnes seront sauvées, voilà. Mais ben, c'est une manière de comprendre. Alors, dernier mot sur pourquoi, donc le principal argument, hormis ce que je viens de dire, qu'il n'y a aucun texte qui dit que c'est en deux fois, mais l'argument au sujet de la tribulation, de la souffrance, c'est que Jésus dit, il y aura une tribulation telle qu'il n'y en aura pas eu, jusque-là, donc la dernière, ce qu'on a surnommé la grande, et il dit, et elle sera abrégée, sinon personne ne pourrait tenir, et il dit, à cause des élus, elle sera abrégée. Donc ils sont là, ils sont là. Et quand tu lis Apocalypse 13, l'Antichrist, il persécute tout ce qu'il peut, et spécialement qui? Ceux qui ne se prosternent pas devant lui, son image. Et qui ne se prosterne pas? Ceux qui sont inscrits dans le livre de vie de l'agneau. C'est les seuls qui ne se prosterneront pas devant l'Antichrist. Donc ils sont là. Alors vous allez dire, mais c'est triste, parce que je croyais qu'on ne souffrirait pas. Mais il faut aller visiter les régions du monde où l'Église est violemment persécutée. Et ben, déjà, allez pas leur dire que votre théorie, c'est que vous serez enlevé avant de souffrir. Parce qu'ils vont vous dire, ben, retourne chez toi dans ton pays de privilégié et envoie quelqu'un d'autre qui pourra nous parler de la souffrance. Mais ça, c'est un argument hors texte biblique que je viens de donner. Voilà, là, on a basculé un peu sur l'eschatologie, mais c'est utile quand même. Jésus a dit, s'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Et on voit les apôtres, ben, c'est les mêmes. Hein. Paul a été lapidé trois fois, finalement, il a été tué. Ben, est-ce que sous l'Antichrist, il y aura pire que d'être tué? Et pourquoi Jésus a dit, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent rien faire de plus après. Craignez celui qui, après avoir tué, pourrait jeter dans l'enfer, comme on dit. Le mot est impropre, hein, mais dans les temps de feu et de soufre. C'est lui que vous devez craindre, hein, Luc 12. Voilà. Donc, la peur qui est naturelle à l'humain, on ne s'en guérit pas en arrangeant les textes bibliques. Mais en faisant comme Anne, on vient et, non, mais je n'ironise pas là, hein, enfin, vraiment, on vient et si j'ai peur de souffrir, mais je viens et je crie à Dieu et j'épanche mon cœur devant lui. Hein? Et il répond Amen. Alors, après, bah, écoutez, est-ce que ça suffit? Est-ce que...
Moi, j'ai une question.
Oui.
Peut-être, quel est le point commun avec toutes ces femmes? Bon, je me doute peut-être de ce que tu vas dire. Parce qu'il y a d'autres femmes que tu n'as pas fait référence et qui sont aussi citées, mais qui sont peut-être moins intéressantes que celles que tu as choisies aujourd'hui.
Ah, ben, je ne soutiens pas que mon choix fut particulièrement inspiré. Je ne sais pas. Alors, il y a eu une... C'est vrai que, bon, moi, à vrai dire, j'ai choisi celles qui m'ont, moi, le plus encouragé au long de ma vie chrétienne, qui m'ont le plus touché. Voilà, les deux ânes, elles me font pleurer. Les deux ânes me font pleurer. La petite chez Naaman, je pleure. Mais je sais comment, moi, j'aurais été rebelle. Comment j'aurais dit, bien fait pour lui. Avant ma conversion. Et après, j'espère que non. Évidemment qu'il y a plein de personnes. Alors, tiens, voilà. Acte 1, 13, 14. Acte des apôtres, chapitre 1. C'est 13, 14. Oh. Ils m'ont enlevé mon livre des actes. Non, il est là. Donc c'est juste après l'ascension. Il faut réaliser ce qui se passe. Hein. Jésus leur parle une dernière fois et les amène sur une montagne et hop, il est... Hein, voilà. Après avoir dit cela, verset 9, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient et une nuée le déroba à leurs yeux. Voilà. Et puis c'est là où l'ange dit qu'il reviendra aussi. Il est monté, mais il descendra. Donc après, il retourne à Jérusalem. Et verset 13. Quand ils furent entrés dans la chambre, dans la ville, oui. Quand ils furent entrés, ils montèrent dans la chambre haute, dans une pièce qui est au-dessus des autres, hein, où ils se tenaient d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. Tous, d'un commun accord, persévéraient dans la prière, avec les femmes, avec Marie, mère de Jésus, et avec ses frères. Voilà, hommes et femmes, c'est les 120, c'est les futurs 120 sur qui la Pentecôte va descendre. Ce n'est pas toujours qu'il y a un rôle particulier ici pour les femmes, ni pour les autres hommes. Alors ceux qui sont nommés, c'est les 11. Hein. Donc là, c'est les 12 apôtres, fondement de la cité. Enfin, c'est pas rien, parce que Dieu a fait comme ça et Christ les a choisis. Et voilà, les 12 apôtres, ils sont hors catégorie. Hein. Donc il n'y a qu'eux qui sont nommés, les autres ne sont pas nommés, les frères de Jésus ne sont pas nommés, les autres, et la seule donc Marie donc, qui est nommée. Mais elles sont là, elles persévèrent dans la prière et il y a un commun accord, et c'est ça. La vertu, c'est l'unité. C'est l'unité. C'est l'unité. Je vais faire une petite remarque au sujet de les hommes nommés et les femmes non. Certains l'utilisent ça pour, j'allais dire, par un féminisme mal inspiré. À vrai dire, ce n'est qu'une partie très réduite du féminisme qui peut être correcte. Malheureusement, là, fondamentalement, c'est quand même plutôt de la rébellion à Dieu. Mais... on le voit dans le monde. Hein. Alors, où j'en étais? Ah oui, par exemple, Jésus multipliait les pains et il y avait 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Alors, certains s'en offusquent et aiment s'en offusquer. Pourquoi ils ne sont pas comptés les femmes, vous voyez, il faudrait qu'une petite mise à jour dans la Bible. Voilà. Et bon, ben, offusquez-vous. Maintenant, passez du temps dans l'Ancien Testament et regardez combien de fois le peuple de Dieu est appelé la fille de Sion, la fille de Jérusalem. Et jamais le fils de Sion et le fils de Jérusalem. Pas une fois. Bon, ben alors c'est aux autres de s'offusquer. Alors je suggère que personne ne s'offusque, ni d'un côté ni de l'autre, et que on prenne, voilà, que Dieu est juste, Dieu est bon, voilà. C'est pas que je veux remplir jusqu'à 4 heures, hein, mais j'avais prévu une symétrie entre la dernière, donc l'épouse, qui n'est pas une femme, mais qui est le corps de Christ, la dernière, et enfin une contre-symétrie, quoique, et la première. Donc la première, c'est qui? On en a parlé, c'est le nom signifie, est en rapport avec le mot vie, le maire de tous les vivants, hein, le nom. En hébreu, le nom qui a donné Ève est de la même famille que le mot vie ou vivre. Alors, d'Ève, donc je ne vais pas parler du début, je ne vais pas parler de la rupture, je vais parler de après. C'est-à-dire, parce que nous sommes tous nés et nous grandissons dans un monde post-rupture, après la rupture. D'accord. Donc je vais lire Genèse 4, le premier verset de Genèse 4, les deux premiers, je ne sais plus, et les deux derniers. Et simplement faire une rapide comparaison, et là aussi c'est encourageant. C'est vraiment encourageant. L'homme, donc 4, verset 1, l'homme connu, donc au sens conjugal, Ève, sa femme, elle devint enceinte et accoucha de Caïn. Elle dit, j'ai mis au monde un homme avec l'Éternel. Avec l'aide de l'Éternel. Littéralement, oui pardon, elle accoucha encore de son frère Abel. Littéralement, j'ai mis au monde. En fait, l'hébreu dit « j'ai acquis ». J'ai acquis un homme avec l'Éternel. Bon. On reviendra après, Caïn, Abel. Oula, ça veut dire que c'est l'heure. Quand je commence à inverser les syllabes. Verset 25. Donc, entre-temps, il s'est passé pas mal de temps. Adam connut encore sa femme. Elle enfanta un fils et l'appela du nom de Seth. Car, dit-elle, Dieu m'a donné une autre descendance à la place d'Abel que Caïn a tué. À Seth aussi, il naquit un fils qu'il appela du nom d'Enoch, qui veut dire homme, humain. C'est alors que l'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. Ce qui semble indiquer qu'à part Abel, du moins dans son cœur, entre la chute et ce moment-là, on ne priait pas. On n'adorait pas Dieu. On ne lui rendait pas un culte. On n'invoquait pas son nom. Et quelle est la différence entre l'état de cœur de Ève entre la première à la naissance de Caïn et la naissance de Seth? Pour Caïn, pour Seth, qu'est-ce qu'elle dit? L'Éternel a donné. Et résultat, un peu lent à se manifester quand même, résultat, on se met à invoquer le nom de l'Éternel. À vrai dire, c'est toujours comme ça. Et pourquoi est-ce que les gens prient? parce que Dieu a donné quelque chose. Il prie aussi pour qu'il donne. Mais si Dieu n'avait jamais rien donné à personne, personne ne prierait. On prie parce que Dieu a donné. Et puis la première naissance, j'ai acquis un homme avec l'Éternel. Je ne sais pas ce qu'elle a fait de Caïn, mais il a mal tourné. Certains, les psys se sont régalés avec ce passage. Il y a des psys qui ont dit et écrit, elle a castré son mari en disant ça. Hein, oui, j'ai acquis un homme avec l'Éternel. Et le papa, il est où? Accessoirement, c'est un des rêves absolus du féminisme. Avoir un enfant à moi sans homme. C'est plus qu'un rêve maintenant. C'est une manière à l'avance de ne pas aimer profondément celui qui va naître. On le prive de... Mais bon, là, pardon, je ne veux pas m'embarquer dans la psycho. Et donc, ce que je voulais relever là, c'est que on est à Ève, après la chute. Bon, c'était très, très douloureux pour eux, Adam et Ève. Ils ont été chassés du jardin. Il faut réaliser ça. Hein. Ce n'est pas comme des nobles qui ont perdu le château. C'est incroyable la différence de... Là, c'était la pureté, c'était... Incroyable de beauté, de tout l'Éternel avait dit, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est très bon. Et ils sont chassés de là. Et ils vont, ils cultivent, ils vivent, tout ça. Et donc, il y a sans doute là beaucoup d'amertume. Mais là, vous voyez, hein? Ah ben, le péché, bien entendu. Mais chez Ève, je veux dire amertume. Et là, elle n'épanche pas son cœur devant Dieu en disant, je suis pleine d'amertume. Et non, bon, j'ai acquis un homme. Et bon, ça tourne mal. Celui-là tue son frère. Et puis, la deuxième fois, Ève, c'est les mêmes conditions post-chute, post-rupture. C'est les conditions d'après la rupture. Le péché est entré dans le monde. En gros, c'est la même Ève. Mais, alors, quelle douleur d'enterrer Abel pour les deux. Alors, à remarquer aussi, les psys se régalent avec ça, des théologiens aussi, le silence d'Adam. Vous voyez, tout à l'heure, on a un peu dit, Elkana, il n'a rien compris. Bon, mais il était plein d'amour, je ne sais pas si Adam, jusqu'à quel point il était Adam, mais il ne parle plus. Or, normalement, il y a des choses à dire, là. Quand Caïn se révolte, commence à jalouser son frère, parce qu'il ne le tue pas tout de suite, hein. Normalement, Adam, il doit parler, comme Elkana aurait dû parler à Peninnah. Non, bon, c'est intéressant. Mais, donc, Ève, mais globalement, ils sont dans la même condition. La condition, là, Ève, de toutes les femmes sur la terre depuis. Et ça donne, et ça produit, il y a d'une part un fruit, donc une naissance, un fruit... qui va à la mort, qui tue, où le péché augmente. Et puis d'autre part, il y a quand même un fruit qui va vers la prière et le nom de l'Éternel va être pris en compte. Et donc d'une certaine manière, toute femme peut aussi un petit peu réfléchir à je veux pas être une fille de Ève hein, du début du chapitre, mais je veux bien être une fille de Ève de la fin du chapitre. Voilà, je voulais dire ça. Et tous les filles de Ève et fils et filles et tous ceux qui seront au Christ, eh bien, ça, voilà. Donc, de la première femme, probablement la plus belle, au niveau, à tous les niveaux, corps, âme, psychologie, directement sortie des doigts de Dieu, pas de papa et maman. C'est incroyable. Donc probablement la plus belle femme que la terre ait portée. Mais qu'est-ce qui est dans le cœur? La beauté est vaine et trompeuse. C'est écrit noir sur blanc. La beauté physique est vaine et trompeuse. Voilà. Amen.